Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Campus Amiens pour cette émission spéciale réalisée par des personnes accompagnées par le CATTP. Alors le CATTP c'est quoi ? Eh bien il s'agit d'un centre d'accueil thérapeutique à temps partiel, un lieu situé rue Delpech à Amiens qui dépend de l'établissement public de santé mentale de la Somme. Il a pour but notamment l'intégration dans la cité de patients atteints de troubles psychiques. Alors ça passe par des activités et des projets culturels, comme cette émission réalisée avec Radio Campus Amiens aux archives départementales de la Somme. Alors après avoir visité plusieurs expositions sur place, les journalistes en herbe ont interrogé Élise Bourgeois, directrice adjointe aux archives départementales de la Somme, pour en savoir plus sur les coulisses de ce lieu qui fourmille de trésors et d'anecdotes historiques.
Depuis quand les archives sont-elles ouvertes au public ? Depuis quand existent-elles ?
C'est une très bonne question. On va peut-être commencer par la deuxième question. Depuis quand existent les archives départementales ? Eh bien, elles existent depuis 1796. Depuis la Révolution française, en fait, chaque département a un dépôt d'archives qui est chargé de collecter les archives des administrations, principalement les archives des particuliers, pour garder la mémoire écrite de notre département. Donc c'est une œuvre de la Révolution. La loi qui crée les archives, c'est la loi du 5 Brumaire en 5. Alors ça c'est en calendrier révolutionnaire, c'est le 25 octobre 1796. Donc depuis plus de 200 ans maintenant, il existe un dépôt d'archives dans chaque département. Elles sont ouvertes au public ici rue Saint-Fucien depuis 1983. Mais l'histoire des archives départementales de la Somme, elle commence bien avant cela, puisque le premier dépôt des archives départementales, celui qui est créé sous la Révolution française, pas encore tout à fait ouvert au public, il était d'abord situé à l'hôtel des Feuillants. L'hôtel des Feuillants, c'est maintenant l'hôtel du département, du conseil départemental, qui est donc rue de la République. Donc cette installation, elle se fait en 1796 et les archives départementales resteront dans ces locaux jusque le milieu du 19e siècle. À ce moment-là, on se dit qu'il y a un problème, c'est que les archives grossissent, on n'arrête pas de collecter les documents, puisque les administrations produisent beaucoup de documents, et donc il faut mettre les archives ailleurs. Deuxième bâtiment des archives, qui arrive fin 19e, début 20e siècle, c'est un bâtiment qui est rue Gautier de Rumilly. Alors rue Gautier de Rumilly, c'est toujours à Amiens, dans un quartier qui s'appelle le quartier Henriville, et les archives vont intégrer un lieu qui est une ancienne usine. Problème, cette usine, elle est située à côté d'une usine qui, elle, produit du café, un torréfacteur. Sauf que quand on produit du café, on fait du feu et c'est très dangereux. L'archiviste se plaint beaucoup d'avoir ses archives juste à côté d'une usine de café. Donc, on cherche un nouveau lieu pour les archives. Lorsque la tour Perret est construite dans les années 1945-50, on imagine y mettre les archives départementales. Vous imaginez les archives départementales dans ce nouvel immeuble. Ça aurait été très problématique puisque effectivement il y avait beaucoup de place, mais de la place tout en hauteur. Donc ce ne sont pas les archives qui vont s'installer, mais bien des invitations qui seront dans la tour Perret. Les archives vont devoir attendre les années 1980, donc pour venir s'installer ici, rue Saint-Fucien, dans cet ancien monastère des sœurs visitandines que l'on va réhabiliter et dans lequel on va créer un dépôt d'archives. Parce que ce qui est magique, c'est que quand on passe rue Saint-Fucien, on n'imagine pas que juste à côté, il y a 5 niveaux de sous-sol qui contiennent près de 20 km de documents. Ici, il y a une salle de lecture depuis 1983. Dans le dépôt de la rue Gautier de Rumilly, il y avait aussi une salle de lecture, alors qui était plus une salle de lecture à l'ancienne. Les gens allaient se servir eux-mêmes dans les dépôts, parfois même empruntaient les documents qu'ils rapportaient chez eux, parfois oubliaient de les rendre aux archives départementales. Donc non, lorsque nous nous sommes installés rue Saint-Fucien, c'est devenu une salle de lecture professionnelle. Avec non seulement une salle de lecture des documents papier, mais aussi une salle de lecture pour tous les documents qui avaient été microfilmés dans les années 50. Dans les années 50, on a microfilmé tout l'état civil, puisque être ouvert au public, c'est bien, encore faut-il avoir un public. Et bien, le public que l'on a, principalement, c'est un public de généalogistes qui est extrêmement avide de ces documents d'état civil. Donc, dans les années 50, on a microfilmé notre état civil pour pouvoir le communiquer sans l'abîmer. Donc, ces salles de lecture, en 1983, s'ouvrent et va devenir la salle de lecture du cercle de généalogie, mais aussi de tous les généalogistes amateurs.
Quelle est la limite géographique des archives ?
Alors, la limite géographique des archives, depuis la Révolution française, c'est le département. Les départements qui ont été créés en 1790 pour être en fait des structures administratives à taille humaine, en quelque sorte, eh bien, ça va être la référence aussi pour de nombreuses institutions, dont les archives. Donc, la compétence des archives départementales de la Somme, c'est tout les archives publiques et privées qui sont produites dans le département de la Somme, qui intéressent l'histoire de notre département, qui vont intéresser son histoire administrative. Ça, ce sont les archives des administrations, de la préfecture, de son ancêtre, l'intendance de la Picardie, mais aussi les archives des entreprises. Donc, par exemple, on va collecter des archives des entreprises textiles qui ont fait l'histoire, la gloire de notre département. Mais on va aussi compléter tous ces documents, parfois par simplement une carte postale, une photo qui va documenter en quelque sorte l'histoire de notre département. Donc vraiment tout ce qui concerne le département, notre histoire locale est conservée aux archives départementales. Pour les autres départements, bien entendu, chacun conserve sa propre mémoire écrite. Et puis pour les institutions nationales, c'est aux archives nationales qu'elles sont conservées. Et puis il y a aussi d'autres services qui conservent d'autres documents d'archives. Par exemple, certaines grandes entreprises ont des dépôts d'archives qui leur appartiennent. Les grands syndicats aussi ont des dépôts d'archives. Donc voilà. Mais pour nous, notre compétence, c'est le département de la Somme. Alors, Patrick, est-ce que tu sais quel est le plus ancien document qu'on a ici ? Toi, tu as quel âge, Patrick ?
J'ai 68 ans.
Est-ce que tu penses que le document qui est le plus ancien ici, il est plus vieux que ça ou pas ?
C'est ça, le plus vieux, oui.
Le plus vieux ?
Oui.
Quel âge il peut avoir ? Il est aussi vieux que moi, tu penses ?
80, presque 90 ans.
Ah non, j'ai pas 90 ans. Non, j'ai pas du tout 90 ans.
Vous avez 42, 43 ans.
Ouais, à peu près. Mettons que j'en ai 18. Mais le plus ancien document ici, il a plusieurs siècles, plusieurs centaines d'années. T'imagines ça ? Plusieurs centaines d'années ? Là, tu es aux archives départementales de la Somme. Alors effectivement, on a tous des très très vieux documents dans nos dépôts d'archives. Et le plus ancien document que l'on ait ici aux archives départementales, il date de l'an 825, qui date effectivement du Moyen-Âge et qui est d'une petite ville que tu connais peut-être, qui s'appelle la ville de Corbie.
Ah oui, Corbie, c'est du côté de la Somme.
Alors c'est pas très loin, et à Corbie il y avait ce qu'on appelle une abbaye qui a été une abbaye extrêmement célèbre, qui a produit énormément d'actes anciens au Moyen-Âge, et c'est donc un acte de cette abbaye de Corbie qui date de 825 qui est signé par des personnages extrêmement importants, puisque celui qui écrit, c'est ce qu'on appelle le scribe. Il travaille dans le scriptorium de l'abbaye de Corbie. C'est beaucoup de documents qui sont relatifs aux possessions, à ce que l'on possède, aux impôts. Et cet ancien document de l'abbaye de Corbie, bah, finalement, c'est un document juridique qui est extrêmement intéressant, parce que c'est le premier qui mentionne cette notion qui est maintenant connue, qui est la Picardie, mais en fait c'est un document qui est signé par des personnages célèbres, ce sont les fils et petits-fils de l'empereur Charlemagne. C'est pour ça que c'est un document qui est extrêmement précieux.
Je vais vous poser des questions. Pour savoir, on avait visité la maison Jules Verne, parce que c'est Jules Verne, c'était un écrivain, il a voyagé beaucoup, mais qu'elle a été dans tous les pays d'étrangers, tout ça, mais... Mais quand Jules Verne était, il est mort en 1800, je ne sais plus combien, mais...
1905.
1905, oui.
Alors, on a aux archives départementales, on a quelques documents qui ont été signés par Jules Verne. Alors forcément, ce n'est pas les plus anciens. On n'a pas énormément de choses sur Jules Verne aux archives départementales. C'est un petit peu décevant parce que voilà, on imagine toujours que ce grand homme, eh ben, il a laissé énormément de traces. Ce n'est pas nous qui avons les manuscrits, ces récits de voyage, ces manuscrits de ces ouvrages. Ce n'est pas nous qui les conservons. En fait, nous, on ne conserve que des archives beaucoup administratives. Toi, ce dont tu parles, ce sont plutôt des œuvres littéraires qui ont plus leur place dans une bibliothèque ou dans un musée. Comme tu l'as dit, c'est plus à la maison de Jules Verne ou à la bibliothèque municipale qu'on va retrouver ces documents. En revanche, on a des documents qui sont relatifs à toute l'époque à laquelle vivait Jules Verne. Et notamment, tu sais qu'à Amiens, on a un cirque hein, qui est le cirque municipal. C'est Jules Verne qui l'a promu. Eh bien, on a des documents qui sont relatifs à cette histoire-là. Donc voilà, on peut retrouver quand même des informations sur l'époque de Jules Verne. Pas forcément des documents de Jules Verne, mais sur l'époque de Jules Verne aux archives départementales.
D'où proviennent les archives ?
Alors, les archives, elles ont plusieurs provenances. Les archives, elles peuvent venir des administrations et donc être des archives publiques. Alors, des administrations comme donc, la préfecture, les directions de l'État contemporaines, ou bien plus anciennes. Par exemple, nous avons aux archives départementales des informations sur la justice sous l'Ancien Régime, sur l'éducation sous l'Ancien Régime, mais aussi des archives de l'intendance de Picardie. Et l'intendant de Picardie, c'était l'équivalent du préfet sous l'Ancien Régime. Et puis, on a toutes les archives, effectivement, qui ont été produites par les services de l'État dans notre département, donc la préfecture et ses différents services, la justice aussi qui produit énormément de documents, les notaires, bien entendu, qui produisent des documents et qui sont des documents souvent d'archives publiques, puisque les notaires, ce sont des officiers publics ministériels. Ça, c'est la partie archives publiques qui est obligatoirement collectée par les archives. Et puis, il y a toute une partie d'archives privées. Alors, les archives des entreprises, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vont venir donner un aspect beaucoup plus humain, finalement, beaucoup moins réglementaire, normatif que les archives publiques. Alors, les archives privées sont des archives d'entreprises, de syndicats, des photographies, des archives totalement privées et intimes, comme des lettres. Et parfois, ces archives privées, c'est nous qui allons susciter leur entrée aux archives départementales. Pendant la période de commémoration de la Grande Guerre, nous avons fait ce qu'on appelle la grande collecte et nous avons demandé aux particuliers qui avaient des documents sur la Grande Guerre, des documents d'archives familiales, privées, intimes, souvent des correspondances très très personnelles, de bien vouloir soit nous les prêter, soit nous les donner. Et donc on a collecté ces documents qui donnent une dimension, là je le répète, humaine aux archives, humaines, intimes, voilà, que n'ont pas les archives publiques. Et puis les archives, ça peut aussi prendre d'autres formes, puisqu'il n'y a pas que des vieux papiers aux archives départementales, il y a parfois des documents en trois dimensions. Par exemple, les marques qui étaient apposées sur les tissus pour faire les motifs des tissus dans les entreprises textiles sont des documents d'archives parce qu'ils témoignent de comment l'entreprise travaillait. On peut aussi avoir, et on vient d'en collecter, des enregistrements sonores. Tiens, ça peut être intéressant pour la radio. Des enregistrements en Picard, puisque nous avons à l'Université de Picardie des gens qui travaillent depuis une quarantaine d'années sur la langue picarde et qui veulent collecter la mémoire sonore de cette langue. Donc, ce sont des enregistrements qui rentrent aux archives départementales. Assez peu, c'est très très rare, mais quand même quelques-uns. Donc voilà d'où proviennent les archives, plein de sources différentes que l'on sélectionne. Tout ne rentre pas aux archives départementales, que ce soit en archives publiques ou en archives privées. Il faut que ça concerne uniquement notre département et que ça ait un vrai intérêt historique à long terme, puisque comme vous l'avez compris, les archives s'accumulent. Ça coûte cher d'accumuler des archives pour qu'elles soient exploitées. Donc il faut aussi que l'on sélectionne et que l'on soit sérieux dans notre sélection. On ne peut pas tout conserver.
Est-ce que pour les hôpitaux, je sais qu'il y a des dossiers déjà archivés dans les hôpitaux, est-ce que vous, vous conservez d'anciens dossiers et sous quelle forme et quel genre de dossiers?
Alors, la mémoire du monde hospitalier, c'est pas du tout ce que l'on imagine. Les dossiers médicaux en eux-mêmes, ils ont une durée de vie très très limitée, en fait. Ils n'intéressent pas tous les historiens parce que souvent des dossiers médicaux, c'est extrêmement redondant. Donc un dossier médical, ça se conserve pendant 20 ans. Après le dernier acte médical qu'il y a pu avoir, et après ça s'élimine. Comme je viens de le dire, en fait, on sélectionne les archives. Donc, les dossiers médicaux, ce sont justement de ces archives que l'on sélectionne, parce qu'elles n'intéressent pas toutes les historiens. En revanche, on en conserve certains de ces dossiers médicaux, parce qu'ils ont un véritable intérêt historique pour l'histoire de la médecine. Certaines pathologies, dont on sait qu'elles sont génétiques, notamment, par exemple, tout ce qui est cancer ou maladies rares, les dossiers, là, sont conservés et sont conservés en intégralité, parce que ça, c'est important pour l'histoire même de la maladie. En revanche, par exemple, une prothèse de la hanche ou des archives de chirurgie orthopédique, c'est des archives qu'on ne conserve pas une fois que le patient a eu son opération. 20 ans après, s'il n'en a plus besoin, le dossier va être détruit. Alors, ce qui m'intéresse, moi, en revanche, en matière d'histoire hospitalière, c'est le fonctionnement des hôpitaux. C'est comment on construit un hôpital, comment on le fait fonctionner, qui sont les malades qui entrent, qui sont les malades ou les patients qui vont y naître, qui sont ceux qui y décèdent. Ça, ce sont des documents que l'on conserve. C'est ce que je viens de décrire, ce sont les registres d'entrée, de sortie, les registres de décès, les registres de naissance. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de faire de l'histoire, finalement, très rapidement, avec des documents qui sont très synthétiques. Donc, les documents les plus synthétiques, les registres, ça, on les conserve. Et puis, on va conserver d'autres choses en histoire hospitalière. Tout ce qui va concerner l'alimentation des malades, par exemple. Les bons d'alimentation, qu'est-ce qu'on donne à manger aux malades. Parfois, c'est aussi une sorte de thérapie qui va se faire à travers cette nourriture. Quels sont les lits qui sont créés? Comment est-ce que les malades sont habillés? Pour, par exemple, l'hospice Saint-Charles, on a la vêture. Donc l'habillement des enfants qui étaient pris en charge à l'hospice Saint-Charles. Voilà, donc on a plein de sources différentes, mais ce que l'on imagine souvent comme étant une sorte de base de données immense médicale, de dossiers médicaux, c'est impossible à faire. Pourquoi ? Parce que nos dossiers médicaux sont beaucoup trop nombreux, redondants, pléthoriques pour être conservés en intégralité.
Et où se trouve l'hospice Saint-Charles ?
Alors l'hospice Saint-Charles n'existe plus. L'hospice Saint-Charles, c'est l'actuelle faculté de médecine qui est sur le Mail Albert Ier à Amiens. D'accord. Donc on garde la mémoire des établissements qui ont disparu. En fait,
comme l'Hôtel Dieu, par exemple.
Comme l'Hôtel Dieu. Enfin voilà, ce sont toutes ces institutions qui disparaissent et que l'on collecte petit à petit. Le plus récent hôpital qui a disparu à Amiens, c'est la maternité Camille Desmoulins. Hein, qui n'existe même plus physiquement. Il y a quelques photos, il y a des dossiers, parce que ça, ce sont des dossiers qui sont encore vivants. Les mamans qui ont accouché encore jusqu'à il y a quelques années, ce sont des dossiers, bien entendu, vivants. Mais c'est un lieu qui n'existe plus en tant que tel et dont il a fallu assurer la mémoire, la transmission de la mémoire, la conservation de la mémoire par le nouvel hôpital.
Juste une dernière question. Le plus ancien document hospitalier que vous ayez, est-ce que vous en avez de l'Hôtel Dieu qui date
Alors, on en a de très, très nombreux Hôtels Dieu. Je ne saurais pas dire là, comme ça, ex abrupto, les plus anciens. Moi, le plus ancien qui m'a marqué en termes de collecte récente, nous sommes intervenus à la maison de retraite de Domard-en-Ponthieu, qui était un ancien Hôtel Dieu, et on a retrouvé la charte de fondation du XVIe siècle. Voilà. Autre document qui m'a beaucoup marqué, c'est la même chose, une intervention à l'hôpital d'Albert, donc à l'est du département, où on a retrouvé la bulle papale de fondation, c'est-à-dire que c'est le pape de l'époque qui avait autorisé la fondation de l'hôpital. Donc c'était une bulle en or qui est maintenant conservée aux archives départementales.
Allez, on fait une petite pause musicale dans cette émission avant de retourner aux archives départementales de la Somme avec le centre d'accueil thérapeutique à temps partiel. On écoute tout de suite le titre Goodbye Sunday Aerobics d'Animali. Nous sommes de retour aux archives départementales de la Somme. On se replonge tout de suite dans l'interview d'Élise Bourgeois, directrice adjointe des lieux. Interview réalisée par des personnes accompagnées par le centre d'accueil thérapeutique à temps partiel.
Qui vient aux archives? Quels en sont les utilisateurs?
Alors, plusieurs types de publics, parce qu'on va mettre un grand S à public des archives, parce qu'il y a des très très nombreux publics. Alors, vous l'avez compris, le public le plus fidèle, le plus traditionnel, c'est le public des généalogistes. Donc, c'est ce public qui est apparu dans les années 60 et qui est venu en masse dans nos salles de lecture dans les années 70-80 pour satisfaire ce nouveau loisir qui était devenu la généalogie à cette période-là. Donc, des utilisateurs qui sont des utilisateurs pratiquement quotidiens, passionnés par les sources archivistiques. Principalement l'état civil, mais pas simplement, parce qu'une fois qu'on a fini son arbre généalogique, on va s'intéresser à l'histoire de son village, à l'histoire d'un métier, à l'histoire parfois de sa maison aussi, et il y a plein d'usages différents de la généalogie. Et puis la généalogie, elle a aussi bougé un petit peu à travers le temps, puisque maintenant, on a des gens qui viennent faire leur généalogie sur les conseils d'un psy. On fait ce qu'on appelle la psychogénéalogie. Et on fait même parfois de la généalogie des lieux de vie. Certains traumatismes viennent d'une histoire familiale que les gens parfois ignorent. Et certains thérapeutes demandent à leurs patients de faire leur arbre généalogique pour comprendre certains traumatismes. Des secrets de famille aussi qui ont été occultés et qui nécessitent parfois qu'on lève le voile pour permettre d'avancer. Donc voilà, différents usages de la généalogie. Un autre usage de la généalogie, c'est la généalogie professionnelle. Ça, c'est formidable. Vous savez, c'est ces professionnels qui vont chercher dans votre arbre généalogique qui a été votre ancêtre et vous donner un héritage fabuleux d'un oncle d'Amérique. Alors, ça arrive rarement, mais ça arrive quand même. Et on a nombre de ces usagers généalogistes professionnels qui viennent en salle de lecture. Et puis, on a tous les historiens amateurs, ceux qui s'intéressent à l'histoire. Comme un peu nous là aujourd'hui qui se disent tiens j'ai envie d'étudier tel ou tel sujet, par exemple le quartier où je vis, la maison où j'habite et puis ou l'histoire de ma ville ou voilà n'importe quel sujet, donc des historiens amateurs qui peuvent être parfois étudiants. Donc des étudiants en histoire, des étudiants en sociologie aussi qui viennent, des étudiants en sciences de l'éducation, voilà, nombre de chercheurs qui viennent en salle de lecture. Mais la salle de lecture, c'est juste un tout petit bout du public, puisque les archives départementales accueillent aussi un public scolaire. On a un service éducatif où tous les niveaux d'enseignement sont les bienvenus, depuis les tout-petits, parfois depuis des enfants qui ne savent même pas lire, jusqu'aux personnes âgées, puisqu'on accueille aussi en atelier pédagogique pour apprendre des choses des résidents de maisons de retraite, parfois, qui viennent ici aux archives départementales. Donc ça, ce sont des gens qui travaillent sur les documents, qui se les approprient pour en faire quelque chose et certainement pour comprendre un peu quelle est leur histoire individuelle ou collective. Et puis, on a d'autres publics. Ce sont les publics qui viennent un peu comme vous pour découvrir les archives à travers des expositions, puisque nous faisons régulièrement des expositions, qui viennent écouter une conférence, puisque chaque mardi, une fois par mois, pardon. Le mardi, on fait une conférence sur un sujet qui intéresse l'histoire du département. Donc, ça peut être quelqu'un qui vient assister à une conférence, qui vient assister donc à une visite guidée, qui vient découvrir le lieu. On fait aussi des visites des archives départementales pour faire comprendre que c'est un lieu ouvert de ce patrimoine écrit qui est le nôtre. Et puis, d'autres types d'animations, peut-être un petit peu plus grand public. Il nous arrive d'ouvrir pour des grands événements, donc pour la fête de la musique. On invite des groupes de musique à venir jouer pour que ce lieu qui est magnifique, rue Saint-Fucien, soit ouvert et connu du grand public. On ouvre bien entendu aux journées du patrimoine. Et puis, on organise aussi des choses différentes pour donner le goût des archives, que sont des fois des apéro-lectures, c'est-à-dire que des comédiens viennent lire des textes d'archives et ces lectures sont entrecoupées de quelques menus dégustations, ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas, on écoute attentivement la lecture et on mange en même temps. Et puis, dernière idée qu'ont eue les archivistes, c'est de faire des soirées mystères, des sortes de cluedo géants, où à partir de faits historiques, eh bien, on vient résoudre une énigme aux archives, c'est-à-dire qu'on apprend des choses en s'amusant. Voilà, donc il n'y a pas un seul public, il y a plein de publics. On essaye de faire comprendre que c'est un lieu ouvert. C'est un lieu qui est gratuit, qui est ouvert à tous, sans condition. Voilà, la seule chose qu'il faut avoir pour venir aux archives départementales, c'est de la curiosité.
Conservez-vous des œuvres d'art ?
Alors non, pas d'œuvres d'art aux archives départementales. Enfin, oui, non, si, quand même un petit peu. Parce qu'on peut considérer que notamment les pièces scellées, c'est-à-dire les documents les plus anciens, ces chartes du Moyen-Âge sur lesquelles on venait apposer les sceaux qui sont la signature au Moyen-Âge, et bien ces petits sceaux de cire ou de plomb quand il s'agit du pape, c'est quasiment des œuvres d'art, puisqu'effectivement c'est des manières de représenter la personne de manière quand même symbolique, artistique, donc on pourrait presque considérer que c'est une œuvre d'art. Et puis on a des choses qui pourraient s'apparenter quand même à des œuvres d'art, c'est que il nous arrive de conserver dans nos dépôts d'archives des documents qui vont figurer des monuments. Par exemple, si on pense à notre monument emblématique dont on fête les 800 ans de la reconstruction cette année, la cathédrale d'Amiens, eh bien effectivement, on a des représentations artistiques de la cathédrale dans nos collections, que sont par exemple les affiches de chemin de fer. Les affiches touristiques de chemin de fer ne sont pas des œuvres d'art en tant que telles, puisque ce sont des affiches à visée touristique, mais le fait que ce soit un affichiste, qu'il y ait un artiste qui ait créé cette affiche, en fait, ça en fait quasiment une œuvre d'art. Donc, nous ne sommes pas un musée, donc il n'y a pas d'œuvre artistique aux archives départementales, un peu comme la question tout à l'heure sur Jules Verne, où non, on n'a pas de documents sur les romans de Jules Verne, on n'a pas les manuscrits des romans de Jules Verne. Donc de la même manière, ce que l'on conserve artistique est quand même un témoignage à un moment donné et non pas une création qui a été faite pour la beauté de l'art. Voilà, je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais on n'a pas d'œuvre d'art en tant que telle. En fait, tout ce qu'on conserve aux archives départementales, à la base, a un intérêt juridique. Les archives, ce ne sont pas des beaux objets. Ce ne sont pas des objets qui vont nous émouvoir esthétiquement, bien au contraire. Ce sont des documents qui prouvent un droit à un moment, qui prouve un droit pour l'identité de la personne, qui prouve un droit du sol, mais qui n'ont pas été créés du tout pour provoquer chez la personne qui reçoit le document une émotion. C'est vraiment du document juridique. C'est après la manière que l'usage que nous en faisons qui va provoquer l'émotion. Par exemple, le document de 825 va nous émouvoir, non pas parce qu'il est beau, mais parce qu'il est ancien. En revanche, ce qu'il contient est intéressant, certes, mais ne provoque pas d'intérêt esthétique en tant que tel. On a quelques documents qui sont très beaux, qui sont par exemple des plans aquarellés du XVIIIe siècle, quand on avait le temps, quand les ingénieurs avaient le temps, par exemple, pour un ouvrage d'art, de faire un très très beau plan aquarellé. C'est un document technique. Nous, ça nous émeut parce que c'est très joli à voir, mais c'est un document technique. C'est la manière dont on le regarde qui lui donne cet intérêt esthétique. C'est pour ça qu'une exposition d'archives, c'est jamais une exposition avec de l'émotion esthétique. C'est plus une émotion qui est une émotion qui relève de l'intime, parce qu'on va réactiver la vie des gens.
Est-ce que si j'ai une collection de cartes postales, ça intéresse les archives départementales ?
Alors, les archives départementales, effectivement, ont une très belle collection de cartes postales, là encore, qui sont toutes relatives au département de la Somme. Donc, si ta collection concerne tous les lieux du département de la Somme, bien entendu qu'elle nous intéresse. Elle nous intéresse beaucoup. Pourquoi ? Bah, parce que les cartes postales, c'est ce qui documente, en fait, les lieux de vie des gens. Et puis, surtout, les cartes postales les plus anciennes, eh bien, elles ont parfois été créées pour commémorer des événements dont on n'imaginerait pas à l'heure actuelle que l'on puisse faire une carte postale à ce sujet. Par exemple, on a des cartes postales de catastrophes ferroviaires. ou bah, pour écrire ses souvenirs de vacances. Et bah, on écrit ses souvenirs de vacances au verso d'une carte qui représente une catastrophe ferroviaire ou un accident d'avion. Ou bien les cartes postales pendant la Première Guerre mondiale qui représentent les régions dévastées, qui servent effectivement à envoyer des nouvelles après la guerre, mais qui sont autant de témoignages sur la partie où il y a la figuration des paysages, de témoignages extrêmement importants sur ces lieux dont finalement on n'a plus du tout la mémoire parce que c'est un moment très fugace, le moment de la destruction, puis la reconstruction qui a eu lieu après, donc c'est seule la carte postale peut nous donner ce témoignage. Donc oui, ta collection de cartes postales, si elle est belle, si elle est inédite, qu'elle soit en noir et blanc ou en couleur, pourra intéresser les archives départementales. Et c'est d'autant plus intéressant pour toi que si tu as une très très belle collection, eh bien les archives départementales de la Somme peuvent te permettre d'avoir une réduction d'impôt. Si tu nous donnes ta collection de cartes postales, qu'elle est très belle, elle peut peut-être avoir une valeur, cette collection. Et qui dit valeur, dit possibilité de payer une partie de tes impôts, 66% de tes impôts, avec cette collection que tu nous aurais donnée. Voilà, donc oui, ta collection m'intéresse beaucoup, Roger.
Comment sont surveillées et protégées les archives?
Alors, les archives sont... surveiller au sens sécuritaire du terme. On a des dépôts d'archives qui ne sont pas accessibles au public. Donc un contrôle anti-intrusion qui est bien entendu mis en place avec des badges qui nous permettent de rentrer dans les salles d'archives et qui permettent seulement aux archivistes de rentrer dans les salles d'archives. Autre sécurité, c'est la sécurité matérielle contre les incendies. Par exemple, donc on a un système de détection incendie avec des détecteurs dans chacun des dépôts et des extincteurs qui sont des extincteurs spécialisés. Donc on ne met pas d'eau dans les bâtiments d'archives, donc avec des extincteurs qui sont des extincteurs à poudre. On vérifie aussi en permanence que nos archives, elles sont dans des bonnes conditions de vie, parce que ça, c'était la sécurité contre l'incendie, contre l'intrusion. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut assurer des bonnes conditions, des conditions optimales pour la conservation des archives. Forcément, des documents qui datent parfois du Moyen-Âge, ça nécessite certaines normes. Donc, dans les dépôts d'archives, il y a une température d'à peu près toujours 18 degrés. Avec un taux d'humidité qu'on essaye d'être le plus constant possible, qui est 55% d'humidité. Pourquoi 18 degrés et 55% d'humidité? C'est parce que c'est la manière de conserver le plus longtemps possible du papier, qui est à 90% le support que nous conservons dans nos collections. Si c'était plus chaud et plus humide, avec un petit peu de poussière, ça ferait partir nos documents avec des moisissures. Et puis, plus chaud, plus sec, ça rend le papier très fragile, notamment ce papier 19e siècle ou la presse qui finit toujours par s'effriter. Donc, on fait en sorte que ces conditions-là soient en permanence respectées. Alors, on n'a pas de système de climatisation aux archives, en tout cas pas à la rue Saint-Fucien. On fait en sorte que l'air qui rentre dans nos dépôts soit un air propre. On va capter l'air à l'extérieur, le faire passer à travers des filtres extrêmement fins, le diffuser dans tous nos dépôts et le faire ressortir à l'extérieur pour faire en sorte que de faire circuler quand même un maximum d'air et d'être en capacité de maintenir donc ces conditions idéales. Alors on a une très grande chance, c'est que rue Saint-Fucien, notre dépôt, il est enterré sous la rue Saint-Fucien, ce qui fait que finalement il est extrêmement inerte et qu'il y a très peu de variations de température. Mais cela n'empêche que nos collections, à l'heure actuelle, elles sont un petit peu empoussiérées parce que, comme vous avez peut-être constaté, on a un nouveau hall d'accueil aux archives départementales. On a eu quelques travaux et les travaux génèrent généralement de la poussière. Donc on s'est lancé dans une tentative de dépoussiérer nos dépôts d'archives qui ont été empoussiérés, puisque ça aussi c'est notre métier de bien conserver les archives, donc de faire en sorte qu'il n'y ait jamais de poussière qui se dépose dessus. Donc on les dépoussière régulièrement, on les met dans des boîtes adaptés, avec des matériaux adaptés, pas de plastique dans les dépôts d'archives, pas de métal, et puis des archives qui sont dans des belles boîtes, qui sont des boîtes de conservation pérennes. Mais voilà, tout cela a un coût, et quand on pense aux kilomètres qui sont conservés rue Saint-Fucien, c'est-à-dire près de 20 kilomètres d'archives, eh bien ça a aussi une durée, et la tâche est longue, donc que ce soit le dépoussiérage ou le conditionnement, bah, c'est des tâches très minutieuses et qui prennent énormément de temps aux archivistes. Lorsque on fait la visite aux archives départementales et qu'on descend dans les sous-sols, il y a quelque chose qui est assez frappant, c'est que tout est plein en bas dans les sous-sols, non ?
On a visité les costumes avec, pour le sang de la terre.
Oui.
Puis après, on a visité aussi les PTT, les facteurs. Puis après, on a visité aussi en bas.
Oui, dans les sous-sols.
Dans les sous-sols. On a visité les bureaux, tout ça.
Oui. Ok, mais est-ce que quand tu es descendu dans les sous-sols, il y avait beaucoup de boîtes, il y avait beaucoup de documents d'archives ?
Il y avait beaucoup d'archives, il y avait beaucoup de boîtes.
Est-ce que tu avais l'impression qu'il restait encore beaucoup de place ?
Non, je crois pas.
Non, bah, c'est pour ça, en fait, dans les sous-sols qu'on fait visiter régulièrement à bon nombre de groupes, en fait, on se rend compte qu'en fait, ce dépôt de la rue Saint-Fucien, qui est sous la terre, eh bien, qui contient pratiquement 20 km d'archives, il est plein. Il est plein, sauf que les documents, bah, on continue à en produire tous les jours et qu'il faut en faire rentrer des documents parce que la mémoire, elle continue à se créer. Donc, on a construit un autre dépôt d'archives qui est juste derrière l'hôpital Philippe Pinel et qui contient, lui, ou qui contiendra, parce qu'il est loin d'être plein, près de 35 km de documents. Donc ça veut dire que si on additionne le dépôt de la rue Saint-Fucien, 20 km d'archives qui vont à peu près de l'an 825 jusque les années 90-2000. Puis un dépôt qui a été construit pour 35 km pour l'avenir, eh bien on va avoir pratiquement 55 km de documents, sachant que le deuxième dépôt, celui de Durie, il a été construit, on imagine, pour une durée de 30 ans. C'est-à-dire qu'en 30 ans, on imagine d'avoir rempli à peu près 30 km d'archives.
On écoutait Élise Bourgeois, directrice adjointe aux archives départementales de la Somme, une interview très riche et instructive réalisée par le CATTP, Centre d'accueil thérapeutique à temps partiel. Merci et bravo à Anita, Patrick, Roger, Sylvie, Christine, Philippe, Catherine, Patrice, Mélodie, Liliane, Pauline et Flavien. Vous pourrez bientôt retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio Campus Amiens. Et si tout va bien, vous nous retrouverez très prochainement pour de nouvelles aventures aux archives départementales de la Somme.